Micro-cravate.
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 Micro.
Micro-cravate.
Micro-cravate.
Vous écoutez Micro-cravate, l'émission de reportage et création sonore qui se balade entre 2015 et 2016. Aujourd'hui, on fait un récap de l'année passée avec un soupçon de déni. Une carte postale des Philippines, un poème cosmique, des souvenirs d'enfance sur les toilettes ou une investigation drôlatique sur l'essence du féminin. Non, 2015 ne fut pas qu'une année de merde. Bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de choc pour ce 26e numéro de Micro-cravate qui marque aussi les 2 ans de l'émission. Avec vous, Anna Massé, très contente de vous retrouver, et Gauthier Piatek. Salut Gauthier.
Salut Anna, bonjour à tous. Nous sommes le dimanche 16 janvier et aujourd'hui, on vous propose quelques-uns de nos reportages et créations sonores préférées de l'année passée.
Que nos esprits s'épanouissent.
Pour commencer notre voyage dans le temps, un peu de dépaysement, ça rime. On rejoint Jérémy Audouard aux Philippines. À l'époque, en plein tournage d'un reportage, ça rime encore, il nous avait envoyé une sympathique carte postale avec en trame sonore le marché de San Fernando.
Alors bonjour à tous, chers auditeurs de Micro-cravate. Je me trouve en ce moment même à San Fernando, c'est aux Philippines. On est à peu près à 50 km au nord de Manille. Donc c'est dans le nord de l'archipel. San Fernando, c'est une ville qui fait à peu près 150 000 habitants. Et là, je me retrouve en ce moment même sur le marché. C'est un marché permanent. C'est un marché typique asiatique. Il fait très chaud. On vend plein d'objets en plastique made in China. Plein d'objets pour la maison. Et aussi des fruits, des légumes locaux, des noix de coco, des trucs, je sais même pas ce que c'est. Des bananes surtout. Là, par exemple, une grosse grappe de bananes, ça coûte 2 pesos. Donc ça fait 10 centimes la grappe de banane.
Ça va ?
Alors, ce qu'il y a tout le temps d'un peu dégueu sur les marchés comme ça, enfin, les marchés dans les pays chauds, c'est le rayon viande. C'est des boucheries en plein air avec des mouches et la chaleur, l'odeur et tout, c'est assez dégueulasse. Hello.
How are you?
What?
How are you?
I'm just walk inside the market.
What?
Tourism.
Ah non.
You sell? You are a seller here?
No. I'm buying. No.
How many?
Okay. Là, je suis avec quelqu'un qui parle pas très bien, il a un petit problème à la bouche. Il est assis sur un stand où il y a des gens qui vendent des bonbons et des cigarettes. Il y a un petit bébé. Hello.
Hello, po. Hello, po.
Et il parle pas, mais c'est sa maman qui parle à sa place. Hello. Hey. Bon, ici tout le monde nous dit bonjour. C'est vrai que les blancs, on n'en voit jamais en fait. On est les seuls blancs. Ça fait un peu bizarre. Alors là, en ce moment, c'est à peu près calme parce que d'habitude ici, c'est rempli de motos, de tricycles à moteur. C'est hyper bruyant, hyper pollué. C'est pollué comme on peut voir qu'en Asie, encore une fois, c'est à la fois ces atmosphères étouffantes et où à chaque fois qu'on respire, on sait qu'on s'encrasse les poumons, mais vraiment là pour de bon. Je suis juste à côté d'un vendeur de poulet, ils vendent un peu de poulet grillé. Ici aux Philippines, c'est surtout ce qu'on mange du poulet, la viande. Tout à l'heure, on discutait avec quelqu'un qui nous disait qu'on mangeait aussi du chien et du chat. What?
Lizard.
t-shirt. Alors là, je suis sur un petit stand, il y a des gens qui montent des espèces de raviolis. Je ne sais même pas trop si c'est des raviolis, un mélange de raviolis et de saucisses. Chacun prend une petite pique et trempe dans un gros bocal. What's that?
Fishball, fish. Fishball.
What's that?
Oh, fishball. Oh, try. Try, we can make it.
Bon, ça fait marrer tout le monde. What?
Egg.
This is egg?
Yes.
No, just take, what's that? This one?
Oil. Mantica.
Oil.
Yes. Cooking oil.
Il y a quelqu'un qui vient de me proposer des œufs avec de l'huile. Ça me fait pas trop envie. Alors, ce qui est assez étonnant ici, c'est que les chevaux servent encore à transporter les gens. Donc, c'est des petites calèches. Chez nous, c'est le truc pour les touristes. Mais ici, on se sert encore vraiment de chevaux avec une vieille calèche en bois et des grandes roues en pas très bon état, sûrement, souvent. Alors là, on quitte le marché pour se retrouver vers une rue plus commerçante. C'est des magasins qui vendent. Enfin, c'est vachement de plastique. Là, par exemple, c'est des ballons made in China, des bouées made in China, des calendriers made in China. On trouve pas. C'est assez bizarre parce qu'on trouve pas, par exemple, d'artisanat philippin. Rien du tout. Et des bijoux en toc, des vêtements qui valent rien du tout. Il y en a un paquet. Là, il y a trois types avec les cheveux longs qui tournent un peu du cul, qui viennent de me faire un petit coup de bouée avec un grand sourire. C'est des transsexuels ici, il y en a un paquet, ils vivent totalement normalement. Ils sont complètement intégrés, personne ne fait attention à eux. Contrairement à chez nous, ces gens-là seraient complètement montrés du doigt. Ici, ils sortent entre potes, même à la campagne, on a une part de féminité qui est hyper bien acceptée et à laquelle plus personne semble faire attention. Bon voilà pour ce petit tour dans le centre de San Fernando. Il fait toujours super chaud là, il fait peut-être encore une trentaine de degrés, on va rentrer et à bientôt.
Thank you. sa iyo'y nagmamahal. Huwag mong sayangin ang panahon, pagkat ito'y may hangganan. Buksan mo ang pintuan, kasama ng iyong puso. Tinangay na ng hangin ang masamang panaginip, kaya't bigyan mo na
sacrifier du temps aux choses importantes, voire essentielles, comme par exemple la cravate.
On se retrouve avec une création sonore qui nous avait transportés vers un horizon plus lointain encore. À l'Observatoire de Meudon, en France, Daniel Capeil rencontre Jean-Pierre Luminet, spécialiste des trous noirs et de la cosmologie, poète à ses heures. S'ensuit un échange à des milliers d'années-lumière. Suspendu aux lèvres de l'explorateur, l'auditeur se dirige vers un trou noir. Mais à mesure qu'il s'en approche, le discours se transforme, altéré par la distorsion du temps.
Dans un vrai tambour, ça ne vibre pas de la même façon si vous avez du plastique ou si vous avez du métal ou la peau d'un animal. Pour l'univers, c'est pareil. Selon que l'espace est rempli de tel ou tel type de matière et d'énergie, il ne vibre pas de la même façon. Pour essayer de comprendre un petit peu tous les paramètres fondamentaux de l'univers, on fait une véritable analyse harmonique. Ce que l'on croyait être le substrat ordinaire de la matière, c'est-à-dire les atomes dans l'univers dont nous sommes formés, dont les étoiles sont formées, etc., ne représentent au maximum que 4 à 5 %. Tout le reste, c'est pas des atomes. C'est ce qu'on appelle de la matière noire, une partie, un quart, puis les trois quarts, c'est de l'énergie sombre. Voilà. Le très jeune univers, pendant 380 000 ans, il est suffisamment dense et chaud pour être parcouru par des ondes acoustiques, mais il est opaque. Et puis subitement, l'univers devient transparent. Les rayons lumineux épousent la forme de l'espace. C'est un espace-temps qui est courbé par la présence des corps massifs. Si l'espace est tordu, les rayons lumineux eux-mêmes sont tordus. Et donc donne des mirages et des illusions d'optique. Les images de certaines sources lointaines vont être démultipliées par la forme très torturée de l'espace. Je me suis intéressé aux distorsions globales de l'univers lui-même. Qu'est-ce que fait la physique fondamentale ? C'est une sorte de maquillage de l'univers qui normalement nous est incompréhensible, chaotique, bizarre. On le maquille avec des lois. En grec, le mot cosmos veut dire beauté. La lune, par exemple. Pour certains, c'est poétique. Le parangon de ça, c'est le trou noir qui va effectivement causer une distorsion extrême de l'espace et du temps.
l'espace-temps est tellement courbé que si vous franchissez le bord, ben vous ne pouvez pas revenir en arrière. C'est pour ça que ça s'appelle un trou et puis noir.
Une sorte de puits. On sait qu'il y a des trous noirs qui existent, évidemment, dans notre univers. On détecte indirectement leur présence. S'il y a plein de trous noirs dans l'univers, dans notre temps à nous, ils ne se sont pas encore formés, ils ne se formeront jamais.
Cette frontière immatérielle qui va délimiter un trou noir, ça s'appelle un horizon parce que pour un observateur extérieur, on ne voit rien au-delà.
L'horizon des événements.
On ne pourra jamais recevoir des images de ces trous noirs proprement dit. Les rayons lumineux ne peuvent pas sortir du trou noir.
L'horizon des événements.
Vous ne pouvez pas revenir en arrière, même si vous êtes un rayon lumineux. C'est pour ça que ça s'appelle un trou et puis noir.
Au-delà de l'horizon.
L'horizon des événements. Le temps commence à se figer.
À se figer.
Le temps commence à se figer.
Les équations de la relativité générale permettraient de se fixer quand même tout de même des rendez-vous en tenant compte de tous ces décalages.
Tout ça, ça se calcule, hein. Il y a des équations purement mathématiques qui sont d'une élégance folle, exponentielle, hein, le petit e, là, 2i pi égale 1.
Le sens esthétique joue un rôle très important.
Une théorie physique, quand elle s'exprime par des équations élégantes, aura plus de chances de coller mieux au réel qu'une théorie avec des équations qui prennent plusieurs pages.
La condensation du langage pour le maximum de sens.
Ben le poème aussi, c'est un petit peu comme ça. Le vers qui, en quelques mots, qui va condenser tellement de sens qu'après, ça peut se décliner, si vous voulez.
Ma pratique de l'écriture poétique a commencé bien avant ma pratique scientifique.
Le temps commence à se figer.
À se figer.
Si vous êtes trop près, le temps commence à se figer, vous êtes piégé.
Ce qui est fascinant avec les trous noirs, c'est...
La différence donc, de l'écoulement du temps selon que l'on est près d'un trou noir ou loin. Il faut calculer une trajectoire très particulière en spirale sortante pour arriver à échapper à cet entraînement tourbillonnaire de l'espace-temps.
En général, les trous noirs tournent, comme tous les astres.
L'univers chiffonné.
J'ai toujours aimé jouer, effectivement, avec les mots aussi, pour décrire des processus de physique très compliqués.
Les crêpes stellaires flambées.
L'imagination créatrice est là, et puis après, on élabore quelque chose.
On élabore un modèle scientifique, en utilisant le langage rationnel, de la physique et des mathématiques. Ou alors notre langage, l'écriture du poème, la lune par exemple.
Pour certains c'est poétique.
On est dans un champ de gravitation très fort, le temps commence à se figer.
Et à se figer.
Un trou noir qui tourne, il entraîne l'espace-temps dans sa ronde.
Un petit peu comme un maelstrom cosmique.
L'univers chiffonné.
Je me suis toujours intéressé aux distorsions
de l'espace et du temps. J'ai commencé par les distorsions locales et extrêmes provoquées par les trous noirs.
Et puis après, je me suis intéressé aux distorsions globales.
Les mystères de l'être. Qu'est-ce qui est poétique et qu'est-ce qui ne l'est pas ? La lune, par exemple. Pour certains, c'est
poétique.
Le trou noir distord le paysage.
Les rayons lumineux épousent la forme de l'espace.
Si l'espace est tordu, les rayons lumineux eux-mêmes sont tordus. et donc donne des mirages et des illusions d'optique.
Mais enfin, on a continué à écrire des poèmes sur la Lune jusqu'aux missions Apollo.
Après, il y a des équations purement mathématiques qui sont d'une élégance folle, d'une extraordinaire simplicité, d'une profondeur absolument vertigineuse. Si vous franchissez le bord, ben vous ne pouvez pas revenir en arrière.
Même si vous êtes un rayon lumineux. Mais ce qu'il y a, c'est qu'un trou noir qui tourne, il entraîne l'espace-temps dans sa ronde.
Vous n'aurez pas la vitesse suffisante pour échapper au tourbillon.
En général, les trous noirs tournent, comme tous les astres.
Moi, j'ai toujours voulu être ce qu'on appelle un électron libre. Un petit peu comme un maelstrom cosmique. Dans lequel on a des formes
tout à fait étranges.
Un peu comme dans un chiffon.
Que certains trouvent poétiques. Là aussi, c'est subjectif.
La Lune, par exemple.
Stéphane Mallarmé, un jour, il a juré de ne jamais mettre le mot lune dans ses poèmes, parce qu'il a dit...
Elle est poétique, la garce.
C'est troublant, ce sens que... si on peut dire comme ça avec des trous noirs.
L'espace-temps est tellement courbé que si vous franchissez le bord, ben vous pouvez pas revenir en arrière.
L'horizon des événements.
Un ultime battement de tambour. Le dernier battement de tambour de l'explorateur. Juste avant qu'il ne franchisse l'horizon du trou noir.
Les équations de la relativité générale
permettraient de se fixer quand même tout de même des rendez-vous.
Ça fait intervenir à la fois deux nombres transcendants.
Un nombre imaginaire.
Des poèmes mathématiques.
Si vous savez ce que ça cache,
vous commencez à creuser la profondeur de la chose et à y voir éventuellement quelque chose de poétique.
La Lune, par exemple. Pour certains.
I love you so.
va maintenant parler de Ravin, de Gadin à vélo et de lecture inspirée. Paul venait à rencontrer Arnaud et lui a demandé de nous conter certains de ses souvenirs d'enfance. Voici le goût des coquillettes.
Je me souviens. À cette époque, je menais une vie tranquille et sans histoire. Une vie de petite fille.
Moi, quand j'étais petit, je voulais devenir gardien de koala avec une sarbacane.
C'est bonne, c'est pas tout fromage, non? Ça me rappelle les coquillettes quand j'étais petite.
T'es grave.
Le goût.
Le goût.
Le goût.
Le goût.
Des coquillettes.
Des coquillettes.
Un après-midi, rue Saint-Christophe, à Montréal. Je rencontre Arnaud dans un studio d'enregistrement. Une grande cave, pleine de bric-à-brac, d'instruments de musique et de couloirs. Globetrotter ayant atterri au Québec, il a posé ses valises en 2008. Il chante, il joue de la guitare dans le trio La Perche et travaille en tant que technicien son. Derrière lui, sont posés un vase rempli de fleurs et un accordéon. Il se souvient.
Il y a quelque chose qui me revient en mémoire. Je me rappelle quand j'avais à peu près 8 ans, je ne sais plus si c'était en quelle classe, et la professeure voulait organiser une sortie à vélo. Mmh. Et j'étais le seul de toute la classe qui avait jamais fait de vélo. Tout le monde savait leur vélo, tout le monde savait faire du vélo. Puis moi, je me rappelle que j'étais le seul qui savait pas faire du vélo. Alors, la prof m'avait dit, il faut que tu apprennes à faire du vélo, il faut que tu viennes. Alors, j'avais une semaine pour apprendre à faire du vélo. Donc, tous les soirs après l'école, mon père m'amenait avec le vélo de mon frère qui était plus grand. Mmh. Forcément, je touchais pas par terre. Et bon, les premières fois, c'était drôle parce que j'étais dessus, puis il me poussait, puis il fallait que je pédale. Et donc, je me suis pris quelques bleus, puis quelques...
Normal.
Quelques pizzas, là, comme on dit. Là. Et donc, au bout d'une semaine, j'arrivais quand même à pédaler sur ce vélo trop grand. Et alors, ce souvenir, c'était que... Bon, c'était dans les... C'était dans les Alpes, parce que je suis du sud-est de la France. Et chez nous, il y a pas mal de reliefs. Et je me rappelle, bon, j'arrivais quand même à m'en sortir pas trop mal, tu sais. J'arrivais à pédaler quand c'était plat, c'était bon. Bon, j'étais toujours le dernier, hein. Mais à un moment donné, tout le monde s'est arrêté près d'une espèce de pente, là, qui pour moi semblait être un ravin, là. Et chacun son tour, alors les uns après les autres, il devait y aller. Et donc, quand il y en a un qui partait, bon, il y avait une prof qui attendait en bas, fait que... Et arrivé à mon tour, j'ai dévalé la pente, puis je me suis ramassé en plein milieu de la pente, une grosse gamelle, et celle d'en haut, elle a pas vu, et l'autre est parti, puis il m'a roulé dessus, puis c'était comme... voilà, c'est un souvenir impérissable.
Ouais, et c'est plutôt douloureux quand il pense ou...
Ben non, c'est pas vraiment douloureux parce que je trouve que c'était quand même c'est ça l'apprentissage. On n'apprend pas quelque chose, il y a toujours des chutes, il y a toujours des gamelles. L'important c'est de se remettre en selle puis de continuer à pédaler là. Puis un jour on arrive à faire du vélo. Il y a un autre souvenir qui m'est revenu il y a pas longtemps aussi. C'est quelque chose que j'avais oublié puis que je me suis souvenu il n'y a pas si longtemps, je ne sais pas si tu as vu l'été indien la semaine dernière qui était assez chaud, puis des couleurs magnifiques. Ouais. Et je me rappelle que quand j'étais petit, dans les toilettes, il y avait toujours mes parents avaient toujours une collection de Géo, c'était un magazine de photographie. Et je me rappelle que y en avait un en particulier qui parlait du Canada. Et il y avait des photos justement de ces érables rouges, jaunes, couleur de feu un peu là. Et je me rappelle que j'étais resté peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure assis sur le bol, puis à feuilleter ce géo. Puis à chaque fois que j'allais aux toilettes, je prenais ce livre, puis je regardais, puis je m'étais dit un jour que j'irais au Canada. Mais après ça, j'avais complètement oublié ce passage. Et puis maintenant que j'y suis, tu vois, je m'en suis rappelé, mais tu sais, c'est pas parce que j'avais vu un géo que je suis venu ici, c'est pas parce que j'ai lu un géo dans les toilettes que je suis venu, là. Mais ça m'est revenu la semaine dernière quand j'ai vu ces belles couleurs.
C'était un truc inconscient, sinon.
Peut-être aussi, hein. Ou peut-être que c'était écrit, finalement, que...
Et maintenant, t'y penses quand t'es sur les toilettes?
Bah, j'y pense quand je vois l'été des Indiens, puis les belles couleurs. Je me rappelle quand j'étais petit sur les chiottes. Donc voilà, ça c'est un autre souvenir.
Terminons ce best-of en beauté avec la série d'utilité publique, alors heureuse. Pour la journée de la femme, Gauthier Piatek avait été contraint de se poser cette question fondamentale. Au fait, une femme, c'est quoi ?
Alors, heureuse ?
Tu dis ça parce que j'ai des ovaires, hein ?
Oh, non, ça c'est juste la femme.
Journée internationale de la femme, ou la Journée internationale pour les droits de la femme, est célébrée le 8 mars. Cette date a été retenue par Lénine, qui décrète la Journée internationale des femmes, ou
международный женский день,
le 8 mars 1921, en honneur aux femmes qui manifestèrent les premières le 8 mars 1917 à Petrograd, lors du déclenchement de la Révolution russe. Cette journée est surtout connue pour être une journée de manifestation à travers le monde, l'occasion de revendiquer l'égalité et de faire un bilan sur la situation des femmes dans la société. En 2015, le thème de la Journée internationale de la femme, c'est « Autonomisation des femmes, autonomisation de l'humanité imaginée ». Pour résumer et faire simple, c'était une célébration qui était issue du communisme et qui maintenant s'est étendue à toute notre société capitaliste.
Qu'est-ce que je vais dire sur... Ouais. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur la femme ? Ouais, je sais. Ouais, allô. Ouais. C'était pour te poser la question. C'est quoi pour toi être une femme?
Ok. Moi, chaque fois, ce que j'aime bien dire, c'est je suis une femme autonome et indépendante.
Donc, être une femme, c'est être autonome et indépendant?
Ouais.
D'accord. Allô? Salut, ça va?
Mais bien, toi?
Ouais, ça va, ça va. Dis que je voulais te demander, c'est quoi pour toi être une femme?
Qu'est-ce que c'est pour moi être une femme?
Ouais.
J'en ai pas la moindre idée, mec.
Bah, je sais pas. Qu'est-ce que c'est pour toi être une femme, quoi? Enfin.
Je sais pas, genre avoir des organes féminins.
Avoir des organes féminins. C'est ça être une femme.
Déjà, c'est pas mal, ça aide.
Ok.
Après, je ne sais pas.
Ok, d'accord.
Allô?
Allô, ça va?
Ça va, toi?
Ouais, ça va. Je voulais te demander, c'est quoi pour toi être une femme?
C'est quoi être une femme?
Oui, c'est quoi?
Mon Dieu, mais c'est une grande question.
Ouais, je sais, mais tu peux répondre.
Faut que je réponde en une phrase?
Oh, comme tu veux.
Oh, j'ai pas le temps d'y penser?
Non, faudrait la réponse tout de suite.
What? Être une femme, c'est donner la vie, tiens.
Ah.
C'est ma réponse.
Ok.
C'est une bonne réponse.
Wow. Malgré toutes ces réponses, j'étais face à une impasse. Il ne restait qu'une solution. Appeler Dieu. Petite précision, ce Dieu est fictif. Hein. De toute façon, je suis athée, donc c'est juste pour l'histoire. Dieu, c'est quoi la journée de la femme?
La journée de la femme, est-ce que ce serait pas la journée du Kenilagus?
Ah, tu crois?
Moi, je pense qu'il faut réfléchir sur qu'est-ce que c'est la journée de la femme.
Bah ouais, mais c'est compliqué, quoi.
Est-ce que la journée de la femme, c'est la journée où le soir, Gilou, qui est au bar, avant de mettre une bonne main au cul à la serveuse, se dit « Non, pas ce soir. »
Quoi?
Est-ce que la journée de la femme, c'est... Je sais pas, je réfléchis, tu vois. Je réfléchis, qu'est-ce que c'est la journée de la femme? Est-ce que c'est la journée d'un trou?
Hein,
tu m'as très bien compris. Je sais pas, la journée de la femme. Est-ce que c'est pas la journée des vaches aussi?
Tu veux dire les animaux féminins?
Est-ce que c'est pas la journée des thons aussi?
Quoi? T'es sûr là?
Et des morues? C'est pas aussi la journée des morues?
Ouais, les animaux féminins.
Ah, tu vois? C'est aussi la journée des vaches, des morues, des truies.
En fait, tous les animaux féminins.
Tu vois, je suis sûr que tu vas avoir plein d'idées.
Ouais, je suis pas trop sûr, hein.
C'est du pain bénit, là, ce que je t'apporte.
Vraiment? Bon.
Ah si, c'est du pain bénit.
Bon, d'accord.
C'est du pain bénit. Des femmes.
Bon, après ma discussion avec Dieu, j'étais pas plus avancé. Mais je m'étais dit que c'était important de dire bonne journée des femmes aux femmes. Chérie, bonne journée des femmes.
Ouais, c'est ça. Va plutôt faire la vaisselle.
Micro-cravate.
C'était Micro-Cravate. On salue les journalistes et créateurs sonores fidèles au micro, ainsi que tous ceux qui entament 2016 en gardant précieusement leurs illusions. Micro-Cravate, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve le 21 février. D'ici là, retrouvez les podcasts de l'émission sur choc.ca et plus de reportages sur le site microcravate.com. À 17h, vous avez rendez-vous avec Mutation. Bonne fin de semaine sur Choc.
Pour dimanche.
I need two words.
Okay.
Micro.
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 Micro-cravate.
Micro-cravate.